Vous écoutez On lit pour vous.
De jeunes Québécoises à Singapour, un texte de Philippe Mercure, paru le 2 septembre 2025 dans la presse. On est fébrile. C'est un peu surréel. Oui, vraiment. C'est tellement un bon feeling après tout ce travail. On s'investit, on travaille. Et c'est juste après qu'on réalise « Oh mon Dieu, on a fait tout ça !» Ne me demandez pas qui a dit quoi, les cinq filles parlaient toutes en même temps. Je venais de leur demander comment elles se sentaient à l'idée de se rendre à Singapour le 23 septembre 2025 pour une compétition internationale d'ingénierie. En résumé, elles sont fières, enthousiastes, et encore incrédule de ce qui leur arrive. On les comprend. Elle s'appelle Azur Klopp, Seine de Montigny, Magnolia Pilote, Léa Leduc et Mayi Zhang. En juin, elles ont terminé leur 4e secondaire au pensionnat du Saint-Nom-de-Marie à Montréal. Leur histoire est impressionnante, folle, inspirante. Il y a un peu plus d'un an, Magnolia voit passer un concours sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle STEM Racing et c'est affilié à la Formule 1. Le défi? Monter une équipe de course. Les concurrents doivent construire une voiture miniature, mais aussi tout ce qui l'entoure. Un logo, un kiosque, des réseaux sociaux, des relations médias. Ça venait combiner mes deux grands intérêts, l'ingénierie et la F1, dit Magnolia. J'ai un beau groupe d'amis et je leur ai demandé si elles voulaient embarquer. Elles étaient toutes vraiment intéressées. Les filles se séparent les rôles naturellement selon leurs intérêts. Seine se charge de la conception de la voiture, Magnolia de sa fabrication. Léa et Mayi deviennent respectivement gestionnaires des ressources et des médias. Azur prend en charge la gestion de l'équipe. Toutes les voitures du concours sont propulsées par les mêmes cartouches de CO2. Le nerf de la guerre est donc de construire la voiture la plus aérodynamique possible pour tirer le maximum de cette poussée. Comment y parvenir? Je fais le design de la voiture sur des plateformes de modélisation 3D. Je fais des prototypes, je fais de la recherche sur les différents concepts de physique aérodynamique, puis j'utilise des plateformes de simulation virtuelle pour faire des tests, m'explique Seine, comme si elle avait 20 ans d'expérience au sein d'une écurie de F1. Je l'arrête. Comment a-t-elle appris à maîtriser de tels outils? J'ai appris par moi-même, dit Seine de Montigny. YouTube a été mon meilleur ami pendant plusieurs semaines. Pendant que Seine travaille sur ordinateur, Magnolia, elle, construit des prototypes avec l'imprimante 3D de l'école et grâce à d'autres outils spécialisés. Les filles comprennent rapidement qu'elles doivent mettre la main sur une machine CNC. Une fraiseuse, précise Magnolia. Ça coûte très cher, genre 20 000 $. Elles en trouvent une à l'Ecofab Lab, un atelier ouvert au public, puis une autre à la Grande Bibliothèque. Les filles vont jusqu'à fabriquer leur propre soufflerie. Elle me montre une vidéo d'une chambre dans laquelle de la fumée est propulsée, ce qui permet de visualiser le flot de l'air autour de la voiture et d'évaluer son aérodynamisme. Elles reçoivent une certaine aide extérieure, notamment de chercheurs universitaires, mais pour l'obtenir, elles doivent cogner aux portes et convaincre. Sans compter qu'outre la voiture, il y a beaucoup de boulot à accomplir. Une grosse partie du marketing, c'est l'identité d'équipe, dit Mayi Zhang. Le but de la compétition est de créer une écurie, pas seulement une voiture. Il faut créer une histoire, une identité. Nous, comme on est une rare équipe entièrement féminine, on est axé sur le féminisme. Notre but, c'est de convaincre d'autres filles de continuer dans le domaine des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Leur logo montre Maria Teresa de Filippis, une pilote italienne qui fut la première femme à participer à un championnat de F1. Les filles remportent une première compétition régionale. Puis, lors de la compétition nord-américaine tenue en Caroline du Nord, elles raflent la deuxième place canadienne, en plus d'une myriade d'autres prix, meilleur design, meilleure présentation, etc. Un exploit pour une équipe qui en est à sa toute première participation. Elle me montre deux gros sacs remplis des trophées ramenés de Caroline du Nord. On ne s'attendait pas à revenir avec tout ça. Ça ne rentrait pas dans nos bagages de cabine. Il a fallu utiliser une partie de notre budget pour acheter une valise, raconte Azur. Parlant de budget, l'une des préoccupations constantes est de trouver du financement, un défi qui grandit à chaque étape. Pour la finale internationale à Singapour, par exemple, il faut payer les frais d'inscription, l'hôtel, les billets d'avion, la fabrication d'une nouvelle voiture qu'elle souhaite encore plus performante. Le budget tourne autour de 50 000 $ et c'est un montant qu'on a coupé au maximum, dit Léa. Les filles disent aujourd'hui avoir récolté 95 % des sommes nécessaires, notamment grâce à leur commanditaire en titre, la Fondation Ange Graupé Prior, une fondation canadienne dont la mission est d'aider les étudiants en génie à étudier à l'étranger. Elles ont aussi organisé un lavoto, ont emballé des aliments à l'épicerie. J'éclate de rire en les entendant raconter comment elles sont débarquées chez des concessionnaires automobiles pour les convaincre de les soutenir. On arrivait dans nos uniformes d'école et on faisait nos présentations, raconte Léa Leduc. Disons qu'ils étaient sceptiques. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient qu'on pilotait des voitures. En Europe, la compétition est connue, mais pas ici. Pour la compétition nationale, tous ceux qui disaient qu'ils étaient intéressés nous ont lâchés, raconte Léa. Leur participation à la finale internationale a finalement convaincu Rolls-Royce de s'engager. Air Canada a aussi accepté de les aider. Des problèmes? Il en est survenu à la tonne, comme une grève de Poste Canada juste au moment où elles devaient poster leur voiture pour la compétition régionale, ou la fameuse fraiseuse de la Grande Bibliothèque qui tombe en panne. Ou encore ce vernis qu'elles ont cru bon d'appliquer sur la voiture de plastique deux semaines avant la compétition nationale. Ça a créé une réaction chimique et la voiture a fondu. Elle a fondu devant nos yeux, raconte Sen, qui semble encore sous le choc. Il a fallu apprendre à se débrouiller, à trouver des gens qui pourraient nous aider, relate Magnolia, pilote. Appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas et lui dire « Est-ce que vous pouvez nous aider à apprendre cela ? Et est-ce qu'on peut se voir ce week-end ?» Les filles ont aussi dû trouver un équilibre entre la compétition, leurs études et leur vie personnelle. Il a fallu balancer le fait d'être amie et d'être collègue, ajoute Léa. Il a fallu apprendre à donner notre avis et à ne pas le prendre personnel quand on recevait des commentaires. À ce sujet, les filles ont accouché d'une trouvaille vraiment amusante. Avant de faire de la rétroaction en tant que collègue et non amie, on disait « Pineapple », raconte Léa. Genre, Pineapple, je pense que ce n'est pas bien fait et que tu dois le refaire. » Mais pourquoi diable, Pineapple? C'est juste un mot qu'on a trouvé, dit Azur. Je verrais bien une telle pratique en milieu de travail, moi. Inspirante, les filles, vous dites? Bon voyage et bonne chance à Singapour. C'était De jeunes Québécoises à Singapour, un texte de Philippe Mercure, paru le 2 septembre 2025 dans La Presse.
Laïla Nabizada voulait seulement courir. Un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 5 septembre 2025 dans La Presse. Quand Laïla Nabizada court à travers les montagnes de Charlevoix, elle revoit celles qui ont formé le panorama de sa jeunesse en Afghanistan, au pied desquelles sa passion pour la course est née. Une passion qu'elle a longtemps dû forger dans le secret et la répression. Ça a commencé durant son adolescence, dans son Kaboul natal. La jeune Laïla avait envie de bouger, sauf qu'à cette époque, il était extrêmement mal vu pour une fille afghane de s'adonner à quelque activité sportive que ce soit. Même dans sa propre famille, les jugements et les sanctions, tant verbales que physiques, ne tardaient pas à surgir. Un jour, je voulais emprunter le vélo du voisin. Mon oncle m'a aperçu et il m'a donné une baffe. Il m'a dit « Comment peux-tu faire ça ?» raconte la gestionnaire administrative, aujourd'hui âgée de 51 ans, montréalaise depuis plus de 20 ans, en entrevue avec La Presse. Elle attendait donc qu'il n'y ait plus personne à la maison avant de s'exercer en courant en rond dans une ruelle voisine, à l'abri des regards inquisiteurs, en s'offrant un répit de l'indignation populaire. Ses études l'ont plus tard menée en France, à Limoges d'abord. Là-bas, elle se disait qu'elle aurait enfin la chance de s'adonner à son sport en toute liberté. Or, les souvenirs du passé ont continué de l'accabler, de sorte qu'elle s'est longtemps privée de course. « Je n'en pouvais plus. J'étais isolée », relate-t-elle. Ce n'est qu'une fois déménagée à Bordeaux et après la naissance de son troisième enfant qu'elle s'autorise à rallumer le feu sacré qui l'animait. À Bordeaux, c'était un autre univers, comme si j'avais trouvé mes ailes, décrit-elle. En 2003, Laïla Nabizada arrive à Montréal. Quelques années plus tard, durant une période où elle se sent un peu déprimée, un collègue lui suggère de sortir pour se changer les idées. Nouveau déclic. Tant qu'à sortir, pourquoi ne pas courir? Et c'est ce qu'elle fait depuis ce jour. Elle arpente les rues de la métropole 5 jours par semaine, mue par cet invincible amour de la course. « Montréal me guérit », illustre-t-elle. Un monde à part. Le temps d'un week-end, Laïla Nabizada vivra cette guérison dans Charlevoix, là où les montagnes lui sont si évocatrices. Elle participe à l'Ultra Trail Arikana du Canada, UTHC, plus importante course en sentier au pays. Plus précisément, elle prend part aux 125 kilomètres, épreuve phare de l'événement dans lequel elle dit avoir trouvé sa communauté. Les participants s'élanceront pour une odyssée à travers les arbres, les pentes et les vallées. Ils doivent avoir terminé le parcours avant 18h30 samedi. Vous aurez donc compris que la course compte une portion nocturne, disputée en plein cœur de la forêt boréale. Au menu pour les coureurs, entre autres choses, 4220 mètres de dénivelé positif et 4580 mètres de dénivelé négatif. On a beau adorer courir, qu'est-ce qui peut bien donner envie à quelqu'un de se lancer dans un défi aussi colossal, aussi dantesque que celui-là? Un défi dont la seule description peut donner envie aux profanes de la course, et sans doute à quelques initiés, de se ruer vers un grand bain de glace et deux comprimés d'Advil. « On teste son corps, » dit Leila Nabizada. « On s'évade. C'est un monde à part. Entre elles, il y a une amitié entre coureurs. On s'entraide. C'est ce côté qui m'inspire. » Après avoir réussi les épreuves du 65 km et du 80 km par le passé, Madame Nabizada a tenté le 125 km une première fois en 2024. Elle n'a cependant pas été en mesure de terminer le parcours. Il faut dire que, bon an mal an, entre 40% et 60% des coureurs qui tentent leur chance à cette épreuve déclarent forfait en cours de route. Au Mont Morios, arrivé à un ravito, poste de ravitaillement, j'ai croisé un coureur qui m'a dit que c'était la pire montée de sa vie, que ça lui avait pris 1h40. Je me suis dit, OK, on oublie ça. Je l'ai fait, mais j'ai pris mon temps, explique-t-elle en riant. Cette fois, elle a mis les bouchées doubles à l'entraînement pour connaître un meilleur sort. Avec un groupe de confrères coureurs, elle s'est notamment adonnée à des sorties de nuit sur le Mont-Royal. Question de la préparer un tant soit peu à ce que la forêt charlevoisienne lui réserverait dans la pénombre. Au fait, on vous a dit que Madame Nabizada était une mordue de course? Une fois l'UTHC terminé, elle prendra part au demi-marathon de Montréal 2 semaines plus tard. Après quoi, ce sera le marathon de Toronto en octobre. C'est ce qu'on appelle un agenda bien rempli et surtout assez actif, merci. Parité. Cette année, l'UTHC atteint la zone paritaire. 47% des 4400 participants, toutes épreuves confondues, sont des femmes. Un record. Madame Nabizada, on la comprend, s'en réjouit. Surtout dans le contexte des difficultés vécues durant sa jeunesse, mais le travail est loin d'être terminé, souligne-t-elle. Il y a encore du chemin à faire. Ça fait vraiment du bien de voir ça, mais il ne faut pas s'asseoir. J'espère que c'est le début de quelque chose de plus important. En terminant notre discussion avec elle, quelques jours avant le coup d'envoi de l'UTHC, nous avons demandé à Madame Nabizada ce qu'on pouvait lui souhaiter en vue de ce redoutable 125 kilomètres. « Que la force soit avec moi », s'est-elle spontanément exclamée, sans toutefois mentionner Yoda ou Obi-Wan Kenobi. On put sûrement se permettre de lui souhaiter aussi de continuer de courir et d'ainsi vivre sa grande passion. C'est, après tout, ce qu'elle a toujours voulu. C'était Leila Nabizada voulait seulement courir, un texte de Jean-Philippe Arcan, paru le 5 septembre 2025 dans La Presse.
Les Autochtones et la forêt complice, un texte de Denis Delage et Fernand Harvé, paru à l'été 2023 dans la revue Cap au Diamant. Les peuples autochtones entretiennent avec la forêt du Québec des liens qui, depuis des temps immémoriaux, s'inscrivent dans leur vision du monde et leur mode de vie. S'y déroulent depuis toujours les activités indispensables à la vie, chasse, pêche, cueillette de petits fruits et de plantes médicinales, fabrication de pièges, d'outils divers et transport du feu, ou de pierre pour le produire, fabrication de canaux et de tentes. La relation au territoire et aux animaux est de nature spirituelle. Le chasseur devra rêver à l'animal, le séduire et le prier de se donner à lui. En revanche, il devra respecter les rituels de sa réincarnation. Une connaissance raffinée selon les saisons et les conditions météo, des mœurs et déplacements de la faune. Jamais un autochtone ne se perd en forêt, toujours connaît-il le territoire sur d'immenses distances. Rapides éportages, lieux de campement, passage d'un bassin versant à l'autre. Le cycle annuel est celui des saisons. Pour échapper aux moustiques, organiser les mariages et pour les retrouvailles, les bandes se regroupent à l'embouchure de rivières par quelques dizaines ou centaines. Dès l'automne, il faudra remonter les rivières et se disperser par groupes de deux ou trois familles pour l'hiver sur le vaste territoire. L'on vivra sous la tente, femmes, enfants et vieillards. Les femmes tendront des filets sous la glace, tandis que les hommes se déplaceront en raquettes, parfois pour un ou quelques jours, pour chasser caribou, orignal, ours, et piéger castor, loutre, martre, etc. au printemps. Par les longues nuits d'hiver, il faudra entretenir le feu tout en racontant les grands mythes, telles les aventures de Tchakapesh dans le grand récit de l'origine du monde, ou celui du joueur de tour, le prétentieux, gourmand, maladroit Carcajou, ou encore la geste de Castor géant qui a aménagé l'hydrographie du continent. Loin d'être vécu tel un dur labeur, ces activités, coutumes, rêves et rituels ou mythes se lient à la forêt dans une fusion toute naturelle du travail et du loisir, révélant une vision du monde soudée à la nature. L'avènement du temps du tourisme. La colonisation européenne, puis l'industrialisation et l'urbanisation ont modifié les rapports des peuples autochtones avec la forêt comme espace de vie. Depuis la création des clubs privés de chasse et de pêche à la fin du 19e siècle jusqu'à leur abolition en 1978, les Amérindiens ont été engagés par les propriétaires de ces clubs comme guides, gardiens, trappeurs, cuisiniers ou cuisinières. Ce rapport de subordination a cependant été inversé par la suite. Du statut d'employé, des membres des Premières Nations sont depuis passés à celui d'entrepreneurs en tourisme autochtone, un secteur qui a pris son essor depuis les années 1990 pour le bénéfice des différentes communautés participantes. Se posait néanmoins au départ un problème d'organisation, d'expertise, de financement et de réseautage. D'autant plus que le milieu autochtone comprend 11 nations et pas moins de 55 communautés disséminées à travers le Québec. La fondation de la Société touristique Innu, en 1991, marque le premier jalon d'une organisation qui s'élargit ensuite à d'autres nations pour former la Société touristique des Autochtones du Québec, connue depuis 2010 sous le nom de Tourisme Autochtone Québec. La tenue de la première conférence sur le tourisme autochtone québécois au Château Frontenac en mars 1998 marque un tournant pour l'évaluation des acquis et des lacunes dans ce secteur d'activité, lequel nécessite une offre culturelle fiable et diversifiée avant d'espérer des retombées économiques et sociales positives pour les communautés. Lors de cette conférence, des pionniers du tourisme autochtone, tels Max Gros-Louis chez les Wendat, Aurélien Gilles chez les Innu, Andrew Delisle chez les Mohawks, Albert Diamond chez les Cree et Dominique Rankin chez les Algonquins, plaident pour un regroupement des initiatives dans ce domaine en plein développement. Au tournant des années 2000, le tourisme autochtone cible le marché européen, particulièrement les Français et les Allemands, à la recherche d'authenticité et d'expériences inédites. On compte alors 150 entreprises privées ou propriétés des communautés, incluant des pourvoiries, des hôtels, des musées, des centres d'interprétation, des boutiques d'artisanat, des sites traditionnels et des bateaux d'observation. Ce nombre progresse rapidement pour atteindre un total de 223 entreprises en 2016. Du côté de la population québécoise, l'attrait pour le tourisme autochtone est relativement plus récent. Un sondage léger réalisé en 2022 auprès de 2000 personnes de 18 ans et plus démontre que 88% des Québécois ont une opinion favorable des communautés autochtones et souhaiteraient pratiquer au moins une activité en milieu autochtone, bien qu'ils avouent mal connaître les possibilités offertes. Placés devant des choix précis, les sondés issus des jeunes générations manifestent un intérêt marqué pour expérimenter une aventure en forêt en compagnie d'Autochtones, complétée par un hébergement dans leur communauté. De plus, ils font preuve d'une grande ouverture pour mieux connaître la culture des différentes communautés en visitant un musée ou un site traditionnel. Chez les personnes de plus de 55 ans, la préférence va aux activités de type culturel. Outre les musées et les sites traditionnels, ce groupe d'âge affirme s'intéresser à visiter une exposition d'art, une boutique d'artisanat ou encore à assister à un festival ou à un powwow. Par ailleurs, les amateurs de chasse et de pêche ont accès à une vingtaine de pourvoiries qui sont la propriété de communautés autochtones Anishinaabe, Wendat, Innu, Inuit et Cree, parmi les 500 que compte le Québec. Il reste beaucoup de chemin à faire pour que les Québécois connaissent davantage la culture des premiers peuples, comme le démontre le sondage évoqué précédemment. Il n'en demeure pas moins que 64% des touristes en milieu autochtone proviennent du Québec. Les Européens constituent, pour leur part, 19% de la clientèle touristique, les Canadiens hors Québec 9%, les Américains 3% et les autres pays 5%. Au fil des années, le Québec est devenu un leader du tourisme autochtone au Canada. Denis Delage est professeur émérite du département de sociologie de l'Université Laval à Québec. Fernand Harvé est professeur associé à la chaire Fernand Dumont sur la culture du Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique à Québec. C'était Les Autochtones et la forêt complice, un texte de Denis Delage et Fernand Harvé, paru à l'été 2023